France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Connu pour ses multiples réalisations, il a également publié ce printemps un beau livre, Les Dessins et les Jours, qui rassemble ses dessins, des dessins qui ont précédé ou pas des réalisations grandeur nature. L'architecte Christian de Porzamparc est notre invité jusqu'à 9h. En fait, quel est exactement Christian de Porzamparc, puisque c'est l'un de vos projets actuels, la philosophie du Grand Paris, telle que vous pouvez nous la raconter?
D'abord, c'est une grande action collective, on est très nombreux. Donc je pourrais pas dire que j'ai c'est pas comme un projet d'architecture où on est à un moment donné choisi ou désigné par un concours et on a une responsabilité sur un lieu. Il y a des endroits où on a une responsabilité parce qu'on a eu un projet avec un maître d'ouvrage. Donc on en a dans le Grand Paris, par exemple avec Elisabeth, on s'occupe d'un quartier à Massy très important, qui s'appelle Grand Ouest, où on est quatre architectes. On a fait le plan d'urbanisme et c'est plusieurs rues, une place, des commerces, cinéma, lieu de congrès, mais aussi des logements. Donc c'est tout un ensemble vivant près de la gare du TGV. Donc ça c'est très concrètement dans ce qu'on appelle le Grand Paris, c'est-à-dire le Paris qui dépasse le boulevard périphérique.
100 000 mètres carrés, hein, quand même. C'est
mais
ça, d'espace
voilà.
À imaginer.
Donc, on a au début le vertige. Et puis, on a travaillé d'abord sur se mettre d'accord ou imaginer les grandes questions essentielles. Pas seulement de transport. On pense toujours beaucoup au transport. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux inégalités et aux enclavements que nous trouvons dans toutes les périphéries des grandes villes. Vous avez des tuyaux, des trains et des autoroutes qui passent. Vous avez des grandes zones de logistique, de stockage qui font des sortes de camps. Vous avez des villes qui sont des villes avec des camps, des enclaves, où on entre quelquefois avec une carte à puce. Quelquefois, c'est des camps pour des endroits où il n'y a que des logements plutôt défavorisés. Quelquefois, c'est les logements favorisés. Quelquefois, il y a des zones de bureaux, des zones de commerce, des zones de loisirs, des zones de stockage. Il n'y a pas que ça, mais si vous regardez ce qui se passe autour de Orly, par exemple, c'est une ville née à l'époque qu'on pourrait appeler la ville industrielle. Vous voyez, on ne peut pas y aller à pied ou même en vélo. Donc les communes qui existaient déjà avant, qui existent toujours, Rungis, Orly, Thiers, ils se sont protégés contre cette ville. Or, c'est des grands territoires où il faudra, et qu'il faut pouvoir humaniser, habiter, traverser de rues, de places, etc. Pour le moment, ce n'est pas le cas et on est obligé de transformer. Là, je vous prends un des lieux les plus paroxystiques. Vous avez le grand mine de Rungis, ce qui nourrit toute la région parisienne. Qui se trouvent là, des grandes zones presque donc industrielles qu'il faut transformer. Donc ça, c'est un des problèmes les plus cruciaux. Mais quand vous prenez des communes ou des communautés de communes qui n'ont pas cela, elles ont tous cette question d'arriver à se relier ensemble, déjà. Et bien, j'insiste sur ce qui se passe au sol, pas seulement le train, mais on peut y revenir. Mmh. Qu'est-ce qui fait que la vie au sol permettent, pas seulement en voiture, mais aussi à pied, d'aller de proximité en proximité, de se retrouver, de ne pas se sentir dans un grand labyrinthe, de ne pas se sentir isolé.
Il est difficile quand même à schématiser, Christian de Porzamparc, ce Grand Paris, même à grands traits, pour que les auditeurs comprennent. Il concerne déjà que la petite couronne et au-delà de la capitale, trois départements. C'est un peu la fusion entre Paris et les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est ce terme que vous avez déjà employé à plusieurs reprises, c'est celui de la transformation des villes et de leur élargissement, agrandissement. En tout cas, de les penser à une autre échelle. On est à Paris aujourd'hui, mais c'est vrai ce qu'on va se dire sur le Grand Paris pourrait autant concerner demain Marseille, Montréal, Berlin, Londres. C'est comment ces villes, ces métropoles peuvent s'agrandir. Et derrière la philosophie, il y a d'abord, vous l'évoquiez, un projet d'habitat et de mobilité avec des nouveaux logements, des équipements, des infrastructures et 200 km de réseau en construction pour plus de 2 millions de voyageurs par jour. C'est aussi un projet politique, vous ne pensez pas, le Grand Paris. On agrandit la ville pour qu'elle puisse rivaliser avec d'autres, comme Londres, New York. C'est presque un peu la teneur des propos d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, ce matin dans Libération, qui a co-signé une tribune avec le nouveau maire de Londres, Sadiq Khan, où ils envisagent de faire de leur ville des contrepoids à la léthargie des États-nations.
Les maires sont devenus très importants. Et ils ont une responsabilité directe, ils connaissent leur territoire, les habitants leur font des reproches ou ne les réélisent pas s'ils ne répondent pas aux grandes questions. Donc par exemple la question de l'écologie, mais aussi la question de l'éducation, la question des transports, des poubelles, de tout ce qu'on peut, tout ce que nous savons qui fait que le territoire est vivable, le maire en est responsable. Donc il a quelque chose de très direct que l'État n'a pas. L'État survole, fait des lois et... Donc cette chose-là est très importante. Maintenant, il faut distinguer. On a besoin de donner une activité économique florissante à une métropole. Elle ne peut pas se concentrer seulement dans son noyau historique central, son triangle d'or. Ça, c'est crucial. Mais aussi, il faut s'intéresser au territoire plus lointain, cette périphérie qui va jusqu'à Creil ou Chantilly, si vous voulez, mais qui est dans tous les départements de petite couronne et de grande couronne, si vous voulez. Il faut se dire que tout ça, c'est le territoire qui doit se transformer et pas s'en tenir à un périmètre qui serait tel ou tel département, telle ou telle région, telle ou telle définition administrative. Le syndicat mixte du Paris Métropole, c'est très bien pour réfléchir, mais c'est cette réalité administrative, elle est un moyen d'agir. Il faudra l'unifier et la simplifier. Ça ne pourra se faire que progressivement. Si vous voulez, tout se passe un peu comme si autrefois, même à l'époque de Louvrier, quand j'étais jeune, il y avait une décision centrale de l'État qui disait « on va faire ça ». Aujourd'hui, c'est impossible. Ça ne peut partir que dans une discussion avec les milliers d'acteurs, avec les centaines de maires. Donc, c'est plus juste, si vous voulez. Mais c'est forcément plus long. Il faut une patience qui est quelquefois énervante. On se dit, on pourrait faire ça, mais ça ne se fait pas encore. Néanmoins, on sent, je vais juste dire, on sent vraiment depuis quelques mois, un an, une accélération. La Société du Grand Paris qui fait ce train est très active. Des gares sont en train d'apparaître, sont en train de se faire. Toutes ces gares autour, ça attire une activité. On espère que ce que j'espère, c'est que ces gares seront bien reliées au sol. C'est un autre sujet qui me préoccupe beaucoup, défaire les enclaves. Mais on sent que ça bouge et que les gens vont voir ce mouvement, vous voyez.
Désenclaver, ça veut dire qu'il faut aussi, ou c'est une manière à travers ce projet de Grand Paris de remettre de l'égalité entre les différents territoires, à commencer par Paris, avec ce rapport assez particulier, hégémonique que la ville peut avoir avec une banlieue qu'on a trop souvent dit un peu sclérosée, renfermée sur elle-même. Mais vous l'évoquiez... On ne parle pas ici de zones blanches ni de territoires qui sont complètement vierges. Et j'imagine pas non plus dans le quartier Atlantis à Massy que vous êtes en train de repenser. Il y a des gens, il y a une histoire sur ces territoires. Est-ce que ces mutations vont pouvoir se faire avec les populations qui habitent ces espaces? Comment faire pour que la greffe prenne?
Non, mais il s'agit d'abord de la vie. C'est pour ça que je dis, c'est pas parachuter une opération. En général, les maires, ils sont hostiles d'ailleurs.
Et les populations aussi.
Les populations aussi. Parfois il faut passer cette hostilité qui devient un principe systématique qui bloque, mais on les comprend. Non, je dis c'est enclavé, c'est pas seulement de faire des grandes zones ou des camps, c'est par exemple les nationales, les ex-nationales qui sont dans tout ce territoire, qui pourraient être les boulevards d'aujourd'hui. Les boulevards, vous voyez, c'est très important, c'est ce qui vous permet de parcourir, de comprendre où vous êtes, d'habiter, d'avoir des adresses, de vivre le territoire, vous voyez. Et bien c'est national, très souvent, que ce soit à Orly ou au Bourget, c'est devenu des tuyaux à voiture et même à certaines heures, des tuyaux à camion. Elles ne sont pas traversables, il n'y a pas des commerces tout du long. Ce n'est plus des lieux de convivialité urbaine, si vous voulez. Alors ça c'est transformable. On sait rebrancher ça sur les voies rapides, limiter le nombre de voies rapides. Toutes ces transformations-là sont cruciales, par exemple, et elles peuvent faire que on tisse à travers ce Grand Paris des nationales, des boulevards et des rues qui vont relier, qui vont donner pour tous une image qu'ils habitent un territoire et puis ils savent aller vaguement ou assez précisément à 2 ou 3 kilomètres à la ronde. Alors on habite quelque chose qui est un peu plus grand. Et du coup, on se l'approprie et on sait que les enfants vont y trouver ce qu'il faut. Enfin, la vie dans un territoire, c'est très ponctuel et local. Et je pense que ça, c'est tout à fait aussi important que de penser au développement économique. On doit faire les deux à la fois. On doit penser aux endroits qui sont délaissés en même temps, peut-être avant même. Et puis, on doit penser au bon fonctionnement ou à la capacité d'accueillir l'économie.
Vous avez justement en projet ce stade Arena à la Défense, à Nanterre-La Défense, qui ouvrira en 2017. S'il n'y a pas de retard, on reste dans ce calendrier-là. C'est intéressant parce qu'on a vu, ce stade n'a pas été souhaité en prévision d'une grande compétition sportive, mais on l'a vu notamment avec Sochi. A contrario, on l'a vu avec Londres. Beaucoup d'équipements sportifs, de stades, ont été parfois pensés sans justement qu'on y intègre une seconde vie, éventuellement, ni le vécu de ces espaces habités que vous évoquiez. Vous, quand vous avez imaginé ce stade, est-ce que vous êtes allé, qui sera un stade de rugby et une salle de spectacle, hein, est-ce que vous avez joué là encore les comparaisons avec le Stade de France, qui existe déjà depuis une vingtaine d'années, ou est-ce que vous avez pensé un projet complètement différemment, plutôt en osmose avec son environnement, cet autre quartier, la place qu'il occupera?
C'est très particulier parce que ce stade, c'est une initiative d'un homme, Jackie Lorenzetti, qui s'est intéressé au rugby et pour cette raison, et le Racing 92, s'est intéressé à lui donner un stade d'abord, par passion du rugby. Et puis il s'est aperçu qu'il faudrait que ça s'équilibre, il faudrait y joindre un peu de bureaux. Le site trouvé est à Nanterre, entre le cimetière et tout le nouveau quartier d'habitation. Donc c'est juste après la Grande Arche, à côté de la Grande Arche. Donc c'est apporter un grand équipement dans un quartier qui est en train de naître. Et il y aura les gares juste à côté. On est entre 4 rues. Ça n'arrive jamais pour un stade. Un stade, en général, c'est entouré de parking dans une périphérie plutôt lointaine pour avoir de la place. Donc c'est une particularité. Il y aura d'un endroit une terrasse de café, à un autre des commerces. Donc c'est un petit peu serré, mais il y a beaucoup de moyens de communication. On y arrivera en métro et on y arrivera en voiture. Il y a tous les parkings de la Défense. Donc c'est très particulier. À cause du site, vous voyez, c'est tout à fait... c'est pas que j'ai imaginé, j'ai été obligé et conduit à imaginer ce stade comme un objet dans un tissu urbain qui est en train de naître, mais qui est déjà très vivant. Donc il y a des problèmes d'aspect, d'entrée et de sortie. C'est très curieux. Ce sera en même temps une salle de spectacle, parce que Jackie Lorenzetti a compris que ça ne pourrait pas, il pourrait pas vivre seulement avec le rugby. Ce sera une trentaine de matchs par an. Et le reste du temps, et bien sûr, la comparaison avec le Stade de France et avec Bercy, on l'a fait assez vite. 90 000 personnes, mais en plein air au Stade de France. 17 000 personnes à couvert à Bercy, et ici on est sur 37 000, 40 000, si on veut accueillir U2, je ne sais pas quel grand spectacle, si vous voulez, mais couvert, parce qu'ils ont obtenu que le rugby puisse se jouer à couvert sous 40 mètres de haut, donc c'est un objet très particulier. On ne peut pas dire que c'est une initiative privée qui vient transformer et contribuer à transformer toute cette zone Courbevoie-Nanterre. Donc le maire de Nanterre, Jarry, a soutenu à fond parce que c'est vraiment arrivé à faire de ce grand territoire qui était spécialisé en bureaux, avec sa dalle, un territoire qui maintenant est vraiment un territoire urbain. Il y a l'université, il y a les habitants, il y a des bureaux et puis il y a des grands équipements comme ça.
Un peu plus de 1200 dessins sont réunis dans ce livre, Les dessins et les jours, Christian de Porzempart. Il n'y a pas de projet sans rêve, vous l'avez souvent dit, pas de projet sans un rêve qui l'ait précédé. Et la seule façon de mettre ce rêve en forme, à plat, c'est le dessin. Vous continuez à dessiner aujourd'hui avant chaque projet?
Ah ben bien sûr.
Mais peut-être pas avec un crayon et une feuille?
Si.
Vous êtes passé au numérique entièrement?
Non, j'ai fait beaucoup sur la tablette, avec un petit stylet spécial. Parce que ça me permet d'envoyer tout de suite aux équipiers et de recevoir, par exemple, des photos d'une maquette qu'on est en train de faire et en carton, et puis d'indiquer avec des flèches et des dessins ce que je voudrais voir changer. Mais, et puis d'avoir des petits films où on se promène dans les lieux futurs. Donc j'utilise à fond le numérique et les modélisations que font mes équipiers. Mais le dessin est pour moi important.
Le dessin, c'est la part de rêve, Christian de Porzamparc. Mais le dessin peut aussi vous amener ou vous guider dans une certaine erreur de ce que vous aviez pu imaginer, non ?
Voilà, le dessin, c'est aussi des coupes, des diagrammes qui permettent de voir ce qu'on est en train de faire, de mesurer, si vous voulez, pour arriver bientôt à des plans. Donc il n'y a pas de mystère, vous avez tout d'un coup 50 000 mètres carrés, le terrain est serré, comment vous allez trouver de mettre de l'air et de la lumière, et vous commencez des petits bouts de maquettes. Autrefois, je travaillais même avec des morceaux de sucre, si vous voulez, quand j'ai fait les hautes formes, pour voir les volumes. Mais très vite, il y a des dessins. Ça m'a intéressé parce que toute ma jeunesse, on se méfiait beaucoup. Il faut se méfier du dessin. Un beau dessin peut vous séduire et puis être plein d'erreurs et ne pas être un bel espace. Donc il faut aussi arpenter les villes et se rappeler que là, ça fait 45 mètres, à quoi ça va ressembler. Mais en même temps, on a besoin de ce dessin qui est quelquefois très simple, quelquefois sophistiqué et quelquefois ne sera pas construit. La majorité des projets qu'on fait ne se construisent pas ou... Et quand ils se construisent, on se rappelle que le dessin existait. Donc, en fait, c'est l'éditeur Somogy qui m'a proposé un livre de dessin. Et puis, ne me limitant pas, il m'a dit, mettez, non pas tout, mais sur chaque projet, j'ai retrouvé, et c'était quelquefois très amusant, j'avais oublié, si vous voulez, par quel stade je suis passé. Parce qu'on a gardé, en gros, les dessins. J'avais eu une exposition il y a déjà longtemps au Centre Pompidou, où j'avais fait... Je disais, j'ouvre les cuisines et on voit la préparation des projets. Et j'avais déjà fait ça, mais je n'en avais pas fait un livre. Et là, on voit, si vous voulez, depuis le premier croquis, les erreurs, les choses auxquelles on a échappé aussi. Et puis le moment où peut-être la bonne idée prend corps et où ça y est, on sait que ça va être sur le bon chemin et que quelques jours après, on a quelque chose auquel on croit et qu'on va défendre devant un jury ou un maire, ou un client, voilà.
Vous avez
et qui va conduire ensuite à un an ou deux ans de mise au point précise de plans d'exécution. Les plans d'exécution ne sont pas dans le livre. On s'arrête au moment où l'image et la maquette du projet, on voit ce qu'on veut faire, vous voyez. J'aurais dû mettre des plans d'exécution pour que le public se rende compte aussi qu'il y a tout un passage précis qui vient après.
Christian de Porzamparc, une dernière question. Vous n'avez jamais caché votre admiration pour l'œuvre de Le Corbusier tout en le nourrissant d'un travail critique. Hein. Vous aviez d'ailleurs très tôt défié son autorité et ses préceptes en réhabilitant la rue, en conceptualisant l'îlot ouvert avec le quartier des Hautes Formes, puis le quartier Masséna. Son œuvre vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO le 17 juillet dernier. Le Corbusier, ça reste un architecte urbaniste important, voire patrimonial aujourd'hui.
Il est très important. Son importance est complexe. Moi, je dis, son architecture est une invention et une création très importante dans le siècle. Son urbanisme est une catastrophe. Donc, c'est compliqué. Et j'ai dit très tôt, dès 70, mon empathie pour ce créateur et en même temps, la nécessité de mettre en question. Mais je voudrais dire une chose. Si j'avais 15 ans de plus... Je pense que je ne suis pas du tout sûr que j'aurais réhabilité la rue et eu ce recul. Vous voyez, j'aurais été dans l'époque qui faisait des enclaves, qui faisait des tuyaux, qui faisait des grandes zones d'habitat monofonctionnelles.
Et là, les 15 ans de moins, c'est 68 qui vous a aussi inspiré.
Sûrement, on a beaucoup réfléchi dans les années 60 et c'est ce qui nous donnait du recul. Mais on a réfléchi à une époque qui était un peu prisonnière et ou prise dans une confiance totale dans les capacités de la technique et de l'industrie. Vous voyez, on croyait tellement que tout cela ne pouvait que améliorer. Et c'est en 66, 67, 68 qu'on commence à se dire la ville, ce n'est pas ça. Ce n'est pas table rase et apporter un nouveau système.
Voilà, ça c'est moi qui vous fais signe qu'il faut arrêter. Et alors vous, c'est net, c'est la coupe de l'architecte. Si vous voulez re-suivre tout ce procédé, ce cheminement de l'architecte justement Christian de Porzamparc, il y a un livre à feuilleter absolument, il est massif mais il est beau, Les dessins et les jours, c'est paru aux éditions Somogy, aux éditions d'art, où vous verrez tout le processus de travail de l'architecte, mais aussi l'évolution à travers les époques.